francophone de la Voix de l'Amérique propose Votre santé, votre avenir. Votre santé, votre avenir est une émission hebdomadaire sur les grandes questions de santé. Présentation, Khalid Gueye.
Bienvenue sur Votre santé, votre avenir. Ici Khalid Gueye à Dakar, à l'école de médecine Saint-Christopher Ibamar Diop, à Dakar, une nouvelle école de médecine qui reçoit des étudiants en provenance de plusieurs pays africains. Et j'ai en face de moi un des doyens de l'école, le professeur Serigne Maguey Gueye, chirurgien urologue. Professeur Gueye, bonjour et merci de nous recevoir.
Bonjour.
Vous êtes chirurgien cancérologue et vous êtes aussi urologue. D'abord, pour nos auditeurs, qu'est-ce que le cancer ?
Merci beaucoup. En fait, quand on parle de cancérologue d'abord, je pense que ce mot est très important. Et partout où on cherche un cancérologue, on doit trouver une équipe parce que aucun praticien de la santé, quelle que soit sa spécialité, quel que soit son rang, son grade et ses compétences, aucun ne doit avoir la prétention de guérir un cancer seul. Cela veut dire quoi? Chacun y contribue de par ses capacités, de par son expérience. Il est vrai qu'en tant qu'urologue, je m'intéresse particulièrement à l'oncologie urologique, c'est-à-dire les cancers de l'appareil urogénital, aussi bien chez l'homme que chez la femme dans certains aspects. Le cancer, comme on le sait si bien, c'est lorsqu'une partie du corps humain et de ce qui constitue ce corps qu'on appelle les cellules est hors de contrôle de l'organisme, commence à se multiplier ou se démultiplier de façon non contrôlée pour constituer ce qu'on appelle habituellement la tumeur. La tumeur qui est cette masse de cellules, de tissus qui n'est plus normale, qui a tendance à évoluer non seulement là où elle se constitue, mais qui malheureusement, si l'on ne l'arrête pas, si on ne fait rien pour s'y opposer, va reconstituer les mêmes cellules ou mêmes tissus anormaux dans d'autres parties du corps qu'on appelle les métastases, et en ce moment, ça devient une maladie généralisée.
Qu'est-ce qui, selon vous, les spécialistes, cause le cancer? Nous avons plusieurs types de cancers, mais parlons du cancer en général. Qu'est-ce qui en est la cause?
En fait, quand on parle de facteurs qui peuvent causer le cancer, on peut les distinguer en deux. Il y a ce qu'on appelle les facteurs initiateurs et les facteurs promoteurs. C'est pas la même chose. Il se trouve que de par notre génétique, de par notre hérédité, de par notre histoire, de par l'environnement dans lequel nous vivons, nous pouvons être appelés tout un chacun à développer un cancer. Mais il faut qu'il y ait un environnement favorable parfois. Les bases peuvent être là. Avec les mêmes bases, certains vont vers le cancer. D'autres ne vont pas vers le cancer parce qu'ils n'ont pas les mêmes facteurs de promotion du cancer. Parmi ces facteurs, je pense que l'un, en tout cas parmi les plus étudiés, c'est le facteur génétique aujourd'hui, c'est-à-dire ce qui nous vient de notre hérédité, de nos gènes. Et je pense que c'est là où les choses vont se passer actuellement en matière de médecine. Des personnes ont été programmées pour développer certains types de maladies, d'autres n'ont pas été programmées pour développer ces maladies. Il est évident que pour ces maladies différentes, ces maladies, les gens n'ont pas le même risque. Mais on peut être programmé pour faire une maladie, donc il y a des facteurs d'initiation, mais nous pouvons être dans des environnements différents. Je prends le cas simple de quelqu'un qui a grandi en Afrique de l'Ouest où sévit un certain type de cancer. Maintenant, cette personne évolue ou émigre dans un autre environnement comme l'Amérique du Nord, mais il va émigrer en amenant ses gènes. C'est-à-dire que l'environnement va changer, mais les gènes ne vont pas changer. Maintenant, il se pourrait que l'environnement dans lequel cette personne vit aujourd'hui est moins à risque que l'environnement dans lequel la personne comme moi qui vit en Afrique de l'Ouest, en tout cas l'environnement est beaucoup plus promoteur. Donc, nous pouvons avoir les mêmes risques de base, mais moi, développeur, je suis dans un environnement ou dans une exposition qui va promouvoir le cancer, et quelqu'un qui va sortir de cet environnement qui ne promeut pas le cancer ne va pas faire le cancer. Mais le plus important actuellement, je pense, quand on parle de cancer en Afrique, Ce n'est pas tant au départ les facteurs, mais c'est la compréhension que nous devons tous avoir que ce cancer est une réalité. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un environnement où pendant longtemps, l'on n'a parlé que de maladies infectieuses, c'est-à-dire on a parlé de microbes, de ce qu'on appelle les maladies transmissibles. Et c'est ça qui a permis de bâtir la plupart de nos systèmes de santé en Afrique au sud du Sahara, anglophone comme francophone. Mais ce qui apparaît aujourd'hui évident, c'est que nous sommes en train de vivre une sorte de transition épidémiologique, partant d'un système de santé essentiellement dominé par les maladies non transmissibles, à un système actuellement dominé par les maladies non transmissibles. Ces maladies non transmissibles, dites maladies chroniques, commencent à prendre le pas sur les maladies transmissibles qui étaient là. Alors que nous n'avons pas encore fini de régler les problèmes des maladies transmissibles et que vient s'ajouter un nouveau fléau qu'on appelle Ebola, nous avons maintenant tous ces problèmes liés aux maladies cardiovasculaires, le diabète, les maladies respiratoires, mais surtout le cancer. Et je pense que nous devons peut-être revoir un peu l'agenda sanitaire des pays africains pour pouvoir intégrer, en tout cas, ce cancer dans nos priorités.
Merci, professeur. Mais pour nos auditeurs, très souvent, on entend dire que le cancer de la prostate est plus fréquent chez les Noirs que chez les Blancs. Est-ce que vous pouvez expliquer ça?
Oui, et cela est une réalité. C'est un constat qui a été fait depuis plusieurs années. Et quand on prend les statistiques globales, il y a un système de collecte d'informations qu'on appelle GloboCan, qui avait déjà montré à la fin des années 90 que les Africains-Américains avaient plus de risques de développer un cancer de la prostate que les Européens-Américains, par exemple. À l'époque, on avait une incidence d'à peu près 256 pour 100 000 habitants chez les Africains-Américains, alors que l'incidence est de 170 pour 100 000 habitants chez les Européens-Américains. Mais une étude avait montré déjà, en Jamaïque à côté, que le risque était plus élevé, avec une incidence de 300 pour 100 000 habitants. Et là, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi des populations vivant dans un même environnement avaient un risque différent? C'est là où maintenant intervient le facteur génétique. En réalité, sur le plan génétique, il y a des transformations de certains gènes qui nous exposent plus à développer un cancer de la prostate que ne le sont les Européens-Américains qu'on appelle les Caucasiens. Et nous nous sommes essayés à voir si ce postulat était vrai en Afrique. Cela a fait l'objet de nos études. Et nous avons essayé maintenant de comparer ces Africains-Américains, ces Caucasiens, à des Africains qui sont restés en Afrique. Et le premier travail a été fait à Dakar par notre équipe, qui a effectivement montré que ce risque élevé chez les Africains-Américains et c'est aussi élevé, sinon plus élevé, chez les Africains que nous étions qui étaient restés en Afrique. Ça veut dire quoi? Sur le plan génétique, on peut aujourd'hui démontrer que le cancer de la prostate chez le noir, les Noirs font plus de cancer de prostate que chez les autres populations, que sont les Européens-Américains ou les Asiatiques ou les Latino-Américains.
Donc c'est dans les gènes. C'est une question de...
Essentiellement dans nos gènes. Mais quand on parle de gènes, on parle aussi des hormones. Parce qu'en réalité, il ne peut pas y avoir de cancer de prostate sans hormones. Si vous castrez un sujet très tôt, il ne fera jamais un cancer de la prostate. Donc, même dans le codage, parce que les gènes qui codent tout dans notre corps, c'est ces gènes qui sont les plus importants. Et quand on a des gènes qui codent pour la testostérone, qui est en fait l'hormone mâle par essence, et par la testostérone à partir de laquelle, qui vient de du cholestérol, c'est là où tout se joue. Donc nous avons plus de risques de développer un cancer de la prostate que les Africains-Américains, qui constituent en fait une mosaïque hétéroclite dans laquelle on trouve des franges très proches des Blancs, des franges très proches des Noirs, mais des franges qui sont plus ou moins beaucoup plus métissées que les autres. Donc, effectivement, ce constat est vrai. D'autant plus que les derniers chiffres de l'OMS ont montré qu'en réalité, la configuration du cancer change même en Afrique. Pendant longtemps, on avait le cancer du col de l'utérus qui était le premier cancer, le cancer du sein le deuxième cancer, et le cancer de la prostate maintenant est devenu le troisième cancer en Afrique, tout genre confondu, mais est devenu le premier cancer chez l'homme en Afrique, le premier cancer chez l'homme en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Australie et même en Asie maintenant. Donc, c'est devenu vraiment ce qu'on appelle the male's cancer. Le cancer de l'homme est devenu le cancer de la prostate.
Il y a d'autres cancers aussi qui accablent les populations africaines, surtout la femme. Nous parlons souvent du cancer du col. Est-ce que aujourd'hui, on peut faire une évaluation de l'état du cancer du col dans la sous-région ici, comparé par exemple à l'Afrique centrale?
Oui, fort heureusement, le cancer du col est actuellement en train de reculer. Pourquoi? Parce que il s'agit d'un cancer qui est accessible à la prévention d'abord, contrairement au cancer de la prostate. On peut parfaitement, par un examen régulier du col de l'utérus, à l'inspection à l'œil nu, ou bien parfois avec un examen simple de laboratoire, il est possible donc d'identifier les lésions très précocement et de prévenir la survenue d'un cancer. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible. C'est un cancer qui est accessible au traitement, surtout dans les formes précocement diagnostiquées, parce que nous avons la chirurgie, nous avons d'autres moyens qui peuvent être utilisés pour traiter un cancer du col. Donc ce cancer est, à mon avis, beaucoup plus friendly, amical que le cancer de la prostate, par exemple, ou le cancer du foie. Et je pense qu'avec toutes les campagnes d'information, de plaidoyer, de dépistage qui se font à tous les niveaux, l'implication des prestataires, que sont les sages-femmes, en première ligne, on est en train d'observer un recul de ce cancer qui, aujourd'hui, est devenu le deuxième et non plus le premier cancer. Maintenant, la particularité de l'Afrique du Centre et de l'Afrique de l'Est, c'est le sida. L'infection par le VIH est un autre facteur, parce qu'en réalité, le cancer du col de l'utérus peut être considéré comme un cancer parfois lié au VIH-SIDA. Or, l'incidence du VIH-SIDA est beaucoup plus élevée dans les pays d'Afrique du Centre et de l'Est, et même du Sud, au point que nous pensons que ces cancers liés au VIH peuvent parfois, dans certaines catégories de population, être les premiers cancers comparés aux cancers classiques, que sont le cancer du sein et le cancer de la prostate, le foie ou l'estomac. Donc ça, c'est la seule différence, c'est lorsque vient s'y ajouter maintenant les effets de la pandémie liée au sida.
Vous êtes sur Votre Santé, Votre Avenir. Laissez-nous vos commentaires sur notre page Facebook et n'oubliez pas de nous donner votre numéro de téléphone si vous souhaitez participer à l'émission.
Vous écoutez Votre Santé, Votre Avenir sur la Voix de l'Amérique. Ici Khalil Gueye, je suis avec le professeur Maguey Gueye, chirurgien urologue. Professeur Gueye, la fistule obstétricale. Pour passer à un autre sujet, qu'est-ce qu'une fistule obstétricale?
Merci beaucoup. En fait, la fistule obstétricale est une communication anormale entre les voies urinaires de la femme et les voies génitales. Parfois, elles peuvent s'associer à une communication entre les voies digestives et les voies génitales. Ça veut dire quoi? Entre la vessie de la femme qui doit contenir les urines dans le petit bassin et le vagin, il y a un trou, ce qui explique le passage en permanence des urines de la femme à travers sa cavité vaginale. Lorsque la communication se fait entre le rectum et le vagin, c'est-à-dire la partie par laquelle passent les matières fécales, il va y avoir un passage de ces matières fécales dans la cavité vaginale et l'association des deux fait une fistule vésico-vaginale et une fistule recto-vaginale avec un mélange encore beaucoup plus sagneux de matières fécales et d'urine à travers les cavités génitales. Mais pourquoi on dit obstétricale? C'est parce que cela survient au cours d'un accouchement prolongé, c'est-à-dire lorsque le travail est prolongé, sans surveillance et sans aucune intervention. La pression qu'exerce la tête du fœtus sur la vessie, en fait la vessie qui est aussi comprimée en avant par l'os du pubis, à terme, il n'y aura plus d'arrivée de sang dans la vessie et cette partie qui a été comprimée, qui ne reçoit plus de sang, va devenir comme une feuille morte, ce qu'on appelle une escarre, une feuille morte, et va se mortifier et ça va constituer un trou. Le même phénomène se réalise en arrière avec la compression prolongée du rectum contre l'os qui est en arrière, qui est l'os du sacrum, et cela constitue le même processus de mortification des tissus et les matières fécales vont passer aussi par le vagin.
Vous êtes connu quand même en Afrique comme spécialiste de la réparation des fistules. Comment est-ce qu'on peut réparer une fistule? Est-ce que la réparation est définitive ou bien est-ce que la fistule risque de survenir à nouveau?
Oui. En fait, quand on parle de réparation de fistule, c'est parler de chirurgie. Aucune chirurgie n'est a priori facile ou difficile. Tout dépend de comment la fistule se présente. Et nous avons, pour des raisons didactiques, essayé de classer les fistules en trois catégories. Il y a ce qu'on appelle les fistules simples, les fistules complexes et les fistules compliquées. Lorsqu'il s'agit d'une fistule simple, qui est habituellement une fistule qui est assez bien positionnée sur la paroi vaginale de la femme, un peu éloignée des orifices, des trous par lesquels l'urine doit sortir ou arriver du rein qu'on appelle les orifices de l'urètre, lorsque la fistule n'est pas très large, lorsqu'il n'y a pas beaucoup de tissu dur qu'on appelle sclérose autour de la fistule, on peut dire qu'il s'agit d'une fistule simple et en ce moment la réparation est très facile pour quelqu'un qui a été formé dans cette perspective. Il y a d'autres cas maintenant de fistules un peu plus compliquées ou complexes qui associent d'autres types de lésions où le vagin n'est pas accessible facilement. Il y a beaucoup de tissus plus ou moins durs qu'on appelle la fibrose ou la sclérose. Il va y avoir la proximité des éléments nobles qu'il faut éviter. Dans ces cas, on ne peut pas dire que c'est facile. Mais avec l'expérience, on parvient quand même, en utilisant beaucoup d'artifices et parfois en revenant plusieurs fois, à guérir au moins 80 à 90% des cas de fistules qui se présentent. Il arrivera malheureusement des cas où parce que les lésions initiales étaient très sévères ou bien parce que des personnes qui n'en avaient pas l'expérience ont tenté de réparer pour rendre ces femmes plus ou moins incurables. C'est-à-dire, les lésions sont tellement importantes que reconstituer l'anatomie normale devient très difficile. Et en ce moment, nous ne pouvons que trouver des palliatifs pour dériver les urines par ailleurs. En fait, on transfère les urines qui coulaient par le vagin en permanence dans des poches de collection pour permettre à cette femme d'être socialisée. Mais une personne suffisamment formée à réparer des fistules peut théoriquement régler le problème de la plupart des femmes qui se présentent à nous pour fistule obstétricale.
Une fois que la fistule a été réparée, est-ce que la femme peut retomber en état de grossesse et puis délivrer normalement?
Oui, en fait, quand on parle de réparation de la fistule, il faut considérer quatre points. Ce n'est pas seulement le fait de restaurer l'étanchéité. Ce n'est pas seulement le fait de fermer le trou. Ça, c'est l'étanchéité. Maintenant, le deuxième point, c'est d'assurer que la femme est vraiment sèche en restaurant le facteur de clôture qu'on appelle la continence. Maintenant, après avoir réglé l'étanchéité et la continence, il faudrait maintenant aussi penser à la reprise de la fonction de reproduction qui permettra à la femme peut-être de retomber enceinte, ce d'autant plus que la plupart de ces femmes ont eu cette fistule lors de leur premier accouchement et ils ont même perdu cet enfant. Mais avant de parler de fonction de reproduction, il faut aussi restaurer un facteur primordial qui est la sexualité. Donc, réparer une fistule, c'est un, prendre en compte l'étanchéité, fermer le trou, restaurer la continence urinaire, restaurer la sexualité et préparer à la fonction de reproduction. Maintenant, une fois que la femme guérit de sa fistule, tombe enceinte, elle doit être surveillée afin d'éviter qu'elle ne reparte pas en travail dans les conditions anti. Et dans ces cas, il faut absolument faire une césarienne pour éviter qu'elle ne refasse une grossesse, pour remettre en travail et refaire une nouvelle fistule qui, malheureusement, sera beaucoup plus sévère que la première parce que survenant sur un tissu qui a été bien remanié parce qu'opéré et qui, malheureusement, était déjà assez peu vascularisé.
Vous êtes sur Votre Santé, Votre Avenir. Laissez-nous vos commentaires sur notre page Facebook et n'oubliez pas de nous donner votre numéro de téléphone si vous souhaitez participer à l'émission.
Pouvez-vous nous parler un peu de cette école de médecine?
Merci beaucoup. Avec plaisir que nous vous parlons de l'école de médecine Saint-Christopher Ibamar Diop, qui est une initiative privée qui date de plus de 10 ans, qui avait été mise en place par des personnes qui avaient une bonne vision du rôle du secteur privé dans la formation en santé. Les deux promoteurs principaux, aujourd'hui défunts, que la terre leur soit légère, l'imam Hassan Cissé, très connu de Kaolack, et le professeur Ibomar Diop, ancien chef de service des maladies infectieuses de l'hôpital de Fane et ancien doyen de la fac de médecine de l'Université de Dakar, mais accompagné d'autres plus jeunes, dont le professeur Elhadji Ibrahima Diop, qui aujourd'hui joue le rôle de président de l'université. Cette faculté de médecine privée reçoit, comme vous l'avez si bien dit, des étudiants venant de tous les pays, particulièrement francophones d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et aujourd'hui, cette école est accréditée, ou ses formations sont accréditées par le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur qu'on appelle le CAMES. Cela veut dire quoi ? Que les diplômes de cette école ont une égale valeur que les diplômes des structures publiques de formation. Étant donné que le gouvernement du Sénégal a pris le parti de traiter d'égale dignité les institutions supérieures privées et publiques d'enseignement, cette école a reçu cette année des étudiants qui voulaient faire les sciences de la santé, comme la médecine et la pharmacie, mais qui n'ont malheureusement pas eu de place dans les structures publiques. Donc cette école en a reçu plus de 300 à la demande du ministère de l'Enseignement supérieur. Il est évident que cette école a un curriculum exactement identique au curriculum de formation dans les métiers de la santé de l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé qu'on appelle l'OAS et a commencé à former des médecins qui aujourd'hui ont commencé à travailler dans beaucoup de pays, dont le Sénégal, le Bénin, le Cameroun, le Tchad et tant d'autres pays d'Afrique. Pour le moment, c'est là où nous en sommes, étant entendu que nous sommes en train d'explorer maintenant les voies et moyens de l'ouverture de la formation spécialisée après le doctorat, et les négociations sont en cours pour au moins commencer des formations comme l'orthopédie, l'urologie et autres.
Monsieur Gay, merci. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Nous reviendrons à vous dans d'autres émissions pour discuter de questions de santé qui accablent les populations africaines. Vous êtes sur La Voix de l'Amérique, vous écoutez Votre Santé, Votre Avenir. Je suis dans les murs de l'école de médecine Saint-Christopher Ibomar Diop et je me tourne d'ailleurs vers le professeur Elhadji Diop. Professeur, vous êtes le président de cette université, cette institution. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelles sont les raisons qui ont mené à la création de cette institution?
D'abord, ce sont des raisons liées à une forte demande en formation, en médecine. Et les seules universités classiques qui existaient à la fois au pays, au Sénégal ou même dans les autres pays, ne pouvaient pas faire face à ces demandes-là. Ensuite, il y a le problème de la qualité. Non pas que les universités classiques n'avaient pas une tendance vers une formation de qualité, mais le surnombre d'étudiants était tel qu'il était très difficile de mettre des étudiants dans des conditions de formation qualitative. Et troisième élément, les changements, parce qu'il fallait s'adapter aux innovations, à la fois au niveau des connaissances, mais également au niveau des méthodes pédagogiques, qu'on ne peut pas faire aisément dans les universités publiques et que les universités privées pouvaient se permettre d'apporter. Donc, ces trois éléments réunis nous ont poussé, après une expérience très longue, d'une trentaine d'années, à, avec un certain nombre de promoteurs, à penser faire ce programme de formation.
D'où viennent vos étudiants?
Nos étudiants nous viennent de l'Afrique. Les étudiants nous viennent de tous les pays africains, à peu près. Sur les 54 pays que compte l'Afrique, on a une trentaine de pays africains qui nous envoient des étudiants. Et nous viennent également d'Europe et d'Amérique. Nous avons des étudiants à la fois de la diaspora, mais également des étudiants d'autres pays. Et dans un des programmes, qui est un programme autre que celui classiquement fait, nous avons des étudiants qui nous viennent de l'Asie, qui nous viennent de très loin. Donc, jusqu'à un passé récent d'ailleurs, ce qui est très important, dans le programme qui est le programme francophone, sur cette trentaine de pays, le Sénégal venait en deuxième position, avec une population de 19%. derrière le Bénin, à peu près 21%, après le Tchad, le Cameroun, ce qui fait une dispersion assez homogène pour les 4 à 5 pays qui constituent la tête. Donc c'est une université vraiment africaine, privée, et d'inspiration à la fois francophone et nord-américaine.
Est-ce que vous avez eu des promotions qui sont déjà sorties et qui sont déjà actives sur le terrain?
Dès 2009, les premières promotions sont sorties, travaillent dans leurs pays respectifs, travaillent également au Sénégal, dans des hôpitaux de grande renommée. Et aujourd'hui, certains sont en spécialisation dans les quatre coins du monde. Parce que on a ouvert ce programme francophone déjà en 2003. Et en 2000, on avait déjà initié le programme d'inspiration américaine.
Comment choisissez-vous vos enseignants, vos spécialistes, vos directeurs d'études?
D'abord, il y a tout un groupe, le groupe de départ qui assure la gestion académique. Ce groupe constitue différents doyens. Ces différents doyens administrent les différentes étapes d'une filière de formation, que ce soit l'admission, que ce soit le cycle licence, le cycle master et doctorat, la recherche, le cycle de spécialisation et le cycle des stages pratiques hospitaliers. Donc toutes ces rubriques sont sous la responsabilité d'un enseignant de rang magistral de l'université de Dakar, mais d'autres enseignants occupent des fonctions. Donc ça, c'est la formation, ça, c'est la gestion académique. Et c'est ce groupe de doyens qui est coordonné par un doyen coordonnateur, le professeur Pierre Ngaï, qui maintenant choisit, accepte les différents enseignants qui nous viennent de nos universités publiques classiques, que ce soit Dakar, que ce soit Cotonou ou d'autres pays, et même de la France et de l'Amérique. Nous avons des enseignants qui viennent de partout, mais la grande majorité nous vient de l'université Cheikh Diop de Dakar.
Merci, professeur Elhadj Diop. Nous reviendrons une prochaine fois pour plus de détails et rencontrer même les étudiants, discuter avec eux. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci beaucoup. Vous serez toujours bienvenus et merci encore.
Merci. Votre santé, votre avenir, c'est terminé. Nous étions à Dakar, à l'école de médecine Saint-Christophe Ibrahim Diop. Ici Khalil Gueye. Au revoir et à la semaine prochaine.
She will try to hold down to the